bienvenue dans la saison 2 de Coup d'éclat. Je suis Claire Nouinaté, fondatrice d'Atelier Nubio, marque de beauté holistique née de ma conviction première, la beauté se nourrit de l'intérieur. Dans cette saison 2, mes invités vont partager avec précision le rituel qui leur fait le plus de bien en ce moment. J'espère qu'il vous inspirera et vous donnera envie de le pratiquer aussi, aujourd'hui ou peut-être plus tard. La mission de Coup d'éclat, c'est de vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Mathilde Cabanas a fait du plaisir et de la joie sa boussole. Solo entrepreneur de sa marque éponyme, Maman Relax, pas solo, de 4 enfants, Mathilde habite à Nantes dans une cabanas familiale en bois. Une fois par mois, elle vient à Paris et s'octroie une nuit en étoile à l'hôtel, des coffees au collagène et des déjeuners entre copines entre 2 rendez-vous pro. Comment fait-elle pour jongler entre les bisous, les choux et les genoux? Son secret, c'est le sommeil, dont elle a fait sa priorité et celle de sa tribu aussi. Si elle ne cultive pas encore les choux, c'est son rêve, un grand jardin où contempler le soleil se coucher et cueillir des petits fruits.
Bonjour Mathilde.
Bonjour Claire.
Comment ça va ce matin?
Ça va bien, je suis ravie d'être avec toi.
Moi aussi, t'as abandonné tes 4 enfants à
ouais,
Nantes.
Ouais, les pauvres, moi, ils sont en trop de bonnes mains.
Et là tu te fais un peu genre une girls night out
ouais.
À Paris.
C'est vrai que j'ai très peu le temps de voir mes copines de Paris, donc j'en profite, là je reste 2 jours à Paris pour le boulot et je me fais quand même une petite soirée copine ce soir.
Génial, et là tu dors à l'hôtel, comment ça se passe quand on est à l'hôtel alors que...
Alors, déjà je mets un peignoir, c'est un des meilleurs trucs de l'hôtel, je me fais un petit masque, là j'ai pris un petit sheet mask, ce que je fais pas d'habitude mais pour voyager c'est parfait. C'est vrai que ça passe vite hein, une soirée à l'hôtel, surtout quand le soir t'es pas là, mais quand même je dors en mode étoile de mer dans le lit. Parce que je ne dors jamais seule, donc là, nuit complète, ouais, j'adore dormir à l'hôtel.
Donc c'est le kiff.
Ouais, gros kiff. Je me fais pas tout le temps un kiff comme ça, mais là, ça faisait longtemps que j'étais pas venue, donc j'ai tout condensé en 2 jours, mes rendez-vous, et comme ça, je me fais une petite soirée à l'hôtel.
C'est un peu un mama street, pour ceux qui connaissent peut-être pas Mathilde aussi bien que moi, tu as 4 enfants. C'est quand même une famille très nombreuse et on a le droit en fait quand on a 4 enfants de s'autoriser une girls night out,
carrément.
Même plus. Est-ce que ça t'arrive même de partir
on
parfois avec tes copines pour plusieurs jours?
Alors ça moins, j'avoue que j'ose le faire pour le travail mais j'ose pas. En fait, si je dois partir et qu'on doit caser les enfants, je préfère partir avec mon mari.
Donc ça vous arrive de partir juste
oui,
tous les deux et de caser
an,
les 4 enfants? Ouais. Vous les casez tous les 4 ensemble?
Ouais. Non, la dernière fois, on a fait 2 et 2. Les 2 grands et les 2 petites, c'est très bien.
Ouais, parce que ça, c'est quelque chose, je crois, qui est très français, c'est de s'autoriser à continuer à être une femme et
ah,
à être
c'est pas, ça me
une
définit
épouse
pas,
et
fait.
Pas juste une maman.
Oui, c'est génial, j'adore être maman, mais ça définit pas l'être humain que je suis. Quoi.
Ces injonctions, je pense que de la mère parfaite sont sans doute moins fortes en France. Est-ce que...
Je pense qu'il y en a quand même, et beaucoup de comparaisons, surtout avec les réseaux sociaux et tout. T'as toujours l'impression de ne pas faire assez bien. Moi, je me détache beaucoup de ça. Mais je pense que pour certaines femmes, surtout pour celles qui ont un premier enfant aujourd'hui, t'as tellement d'infos et tu veux tellement bien faire que c'est difficile, en fait, de tout bien faire. Les repas, le sein, Montessori et compagnie. Aujourd'hui, t'as beaucoup, beaucoup d'informations de comment bien faire et on a tendance à oublier son instinct, je pense.
Parce que j'ai lu un livre justement sur ces injonctions de la mère parfaite. Et si en France, on a quand même plus d'enfants par femme que dans nos pays voisins, c'est parce que les injonctions sont moins fortes et notamment, il n'y a pas de jugement au fait de pas allaiter, par exemple, ou de retravailler alors que tes enfants sont encore petits.
Ouais. Bah, ça double tranchant parce que... Moi, j'aurais aimé, et je pense que beaucoup de femmes aimeraient ne pas laisser leur bébé à 3 mois pour retourner au travail et avoir un congé maternité plus long. Donc, peut-être qu'on a moins d'injonctions dans un sens, mais parfois, c'est difficile aussi, quoi.
Mais t'as quand même eu envie d'avoir 4 enfants.
Ouais, non, mais tu sais, je pourrais
c'était
en avoir 5.
C'était un rêve.
Hein.
Tu définirais comment cette envie
C'était pas un rêve et c'était pas du tout programmé dans mon esprit. C'est juste que j'ai eu ma première fille assez tôt et j'ai adoré et j'ai eu un bébé très facile et je me suis découverte maman. Pour moi, c'était quelque chose d'assez... Je sais que ça l'est pas toujours, tu vois, mais pour moi, c'était facile et je suis un peu tombée dedans et j'ai vraiment adoré être maman. Et ensuite, j'ai eu mon deuxième et ce que j'ai trop aimé et savouré, c'était le côté fratrie.
Ouais.
Qui arrive, t'as pu vraiment, même si c'est extraordinaire et c'est toujours différent, t'as pu la nouveauté, parce que c'est pas la première fois comme pour la première, mais c'est la première fois que t'as une fratrie, que donc ton premier bébé va tisser des liens avec ton second. Et puis bon, bah après, après c'était parti, quoi. Mais non, mais j'ai tourné la page, j'en aurais que quatre, mais je trouve ça vraiment formidable.
Que quatre, c'est quand même une grande
famille. Oui, que quatre. Non, mais je vais terminer à quatre. Mais je trouve, c'est, j'arrête pas de leur dire, c'est un cadeau pour eux d'être quatre.
Mais ça, tu dis que c'était, t'avais un bébé facile, mais comment est-ce que tu t'es découverte mère? C'était plutôt de l'intuition? Enfin, qu'est-ce qui t'a guidée? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même, même si t'as un bébé facile, il y a quand même plein de choses.
Bah, je pense que c'était beaucoup
dans
d'intuition.
Une orga à trois.
Et encore une fois, il y a 10 ans, parce que ma fille, elle a 11 ans maintenant, et à 11 ans, on avait beaucoup moins d'informations, donc j'étais un peu, j'avais pas trop le choix de faire l'intuition, mais je pense que ça fait partie de ma personnalité. Je suis aussi quelqu'un d'assez détente et assez insouciante, quoi. Donc, et en plus, j'étais jeune, j'avais ça pour moi. Donc, je pense que tu l'es plus forcément quand t'es plus jeune. Et donc, ça roulait, quoi. Je me disais, mais c'est extraordinaire. On a fabriqué cet être humain. J'en revenais pas, quoi.
Et tu dirais que ça t'a fait grandir de devenir mère?
Ouais, ça a changé. Autant ça me définit pas aujourd'hui comme la personne que je suis, parce que je suis plein d'autres choses, mais ça a changé qui j'étais. Ça m'a donné énormément confiance en moi.
Et comme tu sais, il y a une question rituelle sur le coup d'éclat. Est-ce que tu sais pourquoi tu es sur Terre? Quelle est ta mission? Qui peut bien sûr changer et évoluer tout au long des âges et des grandes étapes de la vie. Mais je pense que tu as réfléchi à ton why, à ton pourquoi.
Bah, c'est une super question et il y a plein de réponses qui peuvent être données, mais je pense que principalement pour moi, c'est je suis sur Terre pour aimer. Et ça pourrait paraître hyper fleur bleue de dire ça, mais en fait, si t'aimes pas, ça sert à rien d'être là, quoi. Aimer ce que tu fais, t'aimer toi, aimer tes proches, tes enfants, ton mari, ta famille, quoi. Aimer les petits moments de la vie, savoir apprécier les petits moments de la vie, les petites surprises de la vie. Et je pense que c'est le plus important.
Et c'est quelque chose qui a toujours été ta boussole, de ressentir. En fait, je pense que c'est une émotion aussi, l'émotion d'amour qui peut te porter aussi d'un jour sur l'autre, d'une étape à l'autre. Est-ce que tu as besoin de le ressentir pour avancer?
Tu cherches à le ressentir? Par exemple, si j'aime plus ce que je fais, il n'y a plus d'intérêt et je change, je crois.
Et comment tu fais alors quand tu sens c'est quelque chose que tu ressens en toi, que tu l'aimes plus? Abrupt?
Bah, je change.
Mais quand tu le ressens?
Bah, en fait, je sens que je suis mal, tu vois.
Tu fais le constat.
Mon corps, mon esprit... vont pas bien et c'est pas arrivé beaucoup, mais quand ça arrive, je sais qu'il faut un changement, quoi.
Donc tu fais le constat et comment tu fais changer les choses?
Et ben j'essaye de trouver le problème et de le résoudre et de changer mon mode de vie, de changer d'aller voir ce qui va pas et de modifier ce qui va pas, quoi.
Est-ce que t'as un rituel en ce moment quand tu sens justement que l'émotion d'amour, elle est pas assez forte pour te porter?
Quand je sens que je suis pas bien, ma santé mentale est pas bien, je dors. J'essaie le sommeil, c'est sacré pour moi et je pense qu'on l'a instauré aussi dans la famille. C'est vraiment quelque chose d'hyper important et je pense que pour tout le monde en fait. Et quand tu dors pas, t'es l'ombre de toi-même, alors que quand tu dors, tout de suite, ça te remet les idées en place, un peu comme un footing, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est, ça y est, une petite sieste ou genre une bonne nuit de sommeil, t'as les idées claires.
Un peu ce proverbe, ça ira mieux demain. Est-ce que c'est quelque chose que t'appliques beaucoup?
Et d'ailleurs, j'ai remarqué que j'étais de bien meilleure humeur le matin que le soir.
Ouais,
tu vois?
Ça, c'est le cas quand même de beaucoup de gens.
Mais j'ai fait le constat quand même. Le matin, je suis trop de bonne humeur et le soir, je suis un peu plus grise, quoi.
C'est bien que je suis une grande avocate du morning sex versus night sex.
Bah c'est vrai.
Bah, t'es quand même dans de meilleures dispositions.
Oui, parce que le soir, t'es trop fatiguée pour faire l'amour, quoi.
Bah, c'est ça. Et puis même, moi, j'adore aussi, mais je crois que tu partages avec ça cette passion du petit déjeuner.
Oui.
Parce que c'est vrai que quand t'as les
gens qui petit déjeunent pas, ça me déprime trop.
Pour moi, c'est un moment super en famille parce que bon, alors toi, tes enfants ont l'air d'être très relax et tout, mais les miens sont vraiment des amours au petit déjeuner. Alors que le soir, bah tu vois, on est dans un truc, même si on dîne aussi assez tôt et on essaye d'avoir des rituels. Mais ça, tu vas nous partager les tiens parce qu'avec 4 enfants qui sont couchés avant 20h, c'est génial. Mais je trouve que tout le monde est beaucoup plus joyeux et posé au petit déjeuner.
Oui, parce que t'as dormi.
Oui.
Tout simplement, en fait, c'est une science complètement basique, quoi. Mais c'est les gens l'oublient.
Mais le fait d'avoir eu des enfants n'a pas troublé ton sommeil.
Si, ça a été
quand même, ne nous ment pas, Mathilde.
Non, évidemment, ça a été beaucoup une grande traversée, quoi. Mais c'était mon cap, je savais. Et d'ailleurs, quand j'ai eu ma dernière, qui a 2 ans, j'ai perdu mon sommeil. C'est-à-dire que je suis une personne qui s'allonge, qui ferme les yeux et un quart d'heure max, paf, je dors.
Ah,
alors ça arrive, évidemment, tu vois, ça arrive 2 fois dans la semaine, ça va pas aussi vite. Mais c'est un de mes super pouvoirs, tu vois. Et pareil pour la sieste, je fais des power naps et donc quand je travaille de chez moi, paf, je m'allonge 5 minutes, je dors un quart d'heure. Et franchement, il n'y a pas plus efficace pour recharger les batteries. Tu vois.
Tu mets un réveil ?
Non.
Et
sauf quand j'ai
un
rendez-vous juste après. Là, je m'en réveille au cas où. Mais souvent, je regarde ma montre, je ferme les yeux, paf, et 15 minutes, tu vois. Et ça suffit. Et je me sens beaucoup mieux après. Et tout ça pour dire que quand j'ai eu ma dernière fille, j'ai perdu mon sommeil, je n'arrivais plus à dormir. Elle dormait, je n'arrivais pas à lâcher. J'adore. J'étais allongée, je me disais, dors. Vas-y, tu peux dormir là. Et je pense qu'en fait, c'était dans la tête. Je faisais une fixette dessus et du coup, j'arrivais à dormir. C'était vraiment...
Parce qu'elle n'avait pas de problème de sommeil.
Bah, c'était un bébé, quoi. Donc, forcément, elle se réveillait régulièrement. Mais quand elle dormait, mais même parfois, elle dormait 3 heures d'affilée, je n'arrivais pas à lâcher. Mon cerveau n'arrivait pas à lâcher. Et là, du coup, j'ai vraiment sombré. Psychologiquement, c'était hyper dur.
Et ça a duré combien de temps?
Je pense 3 semaines.
Bah, c'est quand même très
court. Non, mais ça va carrément, évidemment. Mais je l'ai senti et j'ai tout fait pour aussi aller mieux, tu vois.
C'était super vigilance, tu penses?
Ouais, alors je
suis... Ou hormonal?
Je pense que c'était hormonal. C'était genre un baby blues, tu vois.
Mmh,
et puis aussi les hormones
aussi,
au top. Et c'est aussi le truc d'accoucher la nuit, tu sais. C'est que du coup, tu commences par une nuit blanche. Et les deux bébés, j'ai eu 2 bébés sur 4. J'ai accouché la nuit, tu commences par une nuit blanche et après bah tout est chamboulé, quoi. T'arrives pas à reprendre, enfin en tout cas moi c'est l'expérience que j'ai eue.
T'as besoin de beaucoup de sommeil, tu dirais?
Je fais 7-8 heures.
Et comment est-ce que tu t'organises du coup avec les 4 enfants?
Alors,
tu m'as dit que t'avais une organisation psychorigide.
Alors j'aime pas trop ce terme parce que je pense pas être quelqu'un de psychorigide, mais s'il y a un sujet sur lequel on rigole pas chez nous, c'est le sommeil. Moi je suis vachement du matin, ça me dérange pas de me lever tôt, mais quand je dis tôt, tu vois, c'est genre 8h30 le week-end, hein, ça va. Mais alors que mon mari dort beaucoup plus, mais c'est pas grave, c'est moi qui gère le matin. Et en fait on les a calés comme si c'était des poupées. Mais c'est vrai que je pense que ça dépend des familles, et chez nous si on a un qui est pas dans le rythme, ça agit sur tout le monde, surtout que nous on vit dans une maison en bois où les murs sont très fins, et du coup forcément il y en a un qui dort pas, surtout la petite, si elle commence à pleurer, et ça agit sur le sommeil de tout le monde, et après tout le monde est de mauvaise humeur, donc c'est très carré. Et puis j'essaye de remonter. Avant, c'était 6h30 au bain, 7h on dîne, 7h30, 8h au lit. Et là, je commence à... Quand il fait pas jour, parce que ça change tout aussi. Forcément, l'été, même s'il y a école, tu peux pas à 6h leur dire au bain, quoi. Et là, les journées sont plus courtes, il fait nuit tôt, maintenant, je fais le bain parfois à 6h. Et comme ça, rien que de décaler une demi-heure, ça change tout, et on est à 8h moins le quart, c'est aussi ça, c'est que nous, on a besoin de notre soirée à deux, tu vois. C'est hyper important pour nous. J'ai pas envie de me coucher à minuit, donc...
Ouais, tu vois qu'il y a un petit côté soldat aussi, ils s'entraînent l'un et l'autre. Enfin, ils se disent, s'il y en a un qui... Ce qu'ils peuvent aussi être dans, je me dis, quatre, si les quatre ont décidé de se chamailler parce qu'ils sont un peu crevés et tout... Là, c'est que ça doit être quand même un peu champ de bataille.
Mais je vais pas dire que ça roule tous les soirs. Forcément, il y a des soirs où, surtout les petites, parce que les grands, ça y est, ça roule, quoi. Ils ont 8 et 11 ans, ils lisent leur petit j'aime lire, et puis ils dorment. Et surtout, ma grande qui a 11 ans, c'est trop drôle, parce que elle est en 6e, et elle me dit, non mais maman, quand y a la dernière qui embête tout le monde et qui veut pas dormir, j'ai besoin de mon sommeil, tu vois. Elle sait, elle aussi, que c'est hyper important, sinon le lendemain, elle va être fatiguée. Je vais être fatiguée demain, je vais pas réussir à suivre. Donc, je pense qu'ils ont tous intégré que c'était pour eux, et pas pour, forcément que pour nous qu'on le faisait.
Mais ils ont fait du sommeil une priorité.
Voilà, c'est un peu notre religion, le sommeil.
Tu vois, une des raisons aussi pour lesquelles j'aurais pas plus que deux enfants, moi, c'est justement ce côté sommeil, parce que...
Ouais, mais ça revient. Tu t'es épuisée pendant quoi ?
Moi déjà, enceinte, je dors pas. Mais c'est vraiment... Et je sais pas si c'est l'ultra-vigilance, mais en effet, c'est normal, c'est des bébés, ils se réveillent et tout. Moi aussi, ça trouble après mon sommeil, c'est quand eux dorment, j'arrive plus à dormir. Enfin, il y a tout un truc qui fait que pendant une période assez longue, j'arrive pas à dormir. Et après, il y a quand même les petites maladies, les petits trucs. Enfin, ils arrivent quand même, ils tombent de leur lit, tu vois, quand on enlève les barreaux. Enfin, bon, il y a quand même pas mal de trucs. Ils sont sans doute, je pense, moins bien calés que toi. Mais donc, t'as pas fait appel à ce qu'on appelle une caleuse ?
Non. vraiment aucun jugement pour ceux qui le font, hein. Mais non, j'aurais pas fait. Toi, t'as fait appel à ça?
Non. Mais tu peux être judgy. Et peut-être que c'est ta prochaine carrière, Mathilde.
De caler les bébés?
Bah, t'as été assez extraordinaire avec tes quatre.
Non, mais ouais. Alors, encore une fois, c'est pas magique. Il y a plein de soirs où ils ont décidé que non. Mais en vrai, ça roule. C'est vrai que ça roule plutôt bien. Et quand on voit des copains qui ont des enfants et que sur un groupe de quatre familles, tous les enfants se réveillent à 6h30, 7h, sauf les nôtres, on se dit, waouh, on a dû faire quand même quelque chose de bien, mais je sais pas trop... On les fouette pas, hein, je te promets. Enfin, ils dorment longtemps. Oui.
Non, mais c'est réussir à... C'est comme le goût de bien manger, en fait. Je pense que le goût de bien dormir, c'est aussi une transmission.
C'est la moitié de l'épisode. On prend le temps d'inspirer et d'expirer toutes les pensées et les sensations qui ne nous servent pas ou plus. On s'allège de tout ce superflu avant d'accueillir la suite de l'épisode de Mathilde. Mathilde est obsessionnelle des bonnes brosses. Nos bouillons de collagène au curcuma gingembre ou nouvelle recette thym citron. Elle boit chaque soir un de ses précieux bouillons en dîner léger. Ce bouillon de collagène longuement mijoté a de multiples bienfaits sur la peau, les cheveux et la digestion, en plus d'être exquis et réconfortant. À commander sur le site ateliernubio.fr et suivre en cure de 6 à 12 jours par mois.
Donc comment tu t'y prends quand tu te dis « il n'y a qu'une bonne nuit de sommeil qui peut me permettre de redémarrer demain ?» C'est quand justement tu es une journée où tu te sens un petit peu, tu sens que ta santé mentale, elle est moins forte, moins solide que d'habitude. Comment tu te prépares à une bonne nuit de sommeil? Parce que c'est quand même pas un automatisme. Dors, ça marche pas, l'injonction de dormir.
Oui, évidemment, je pense que ça aide de pas sortir, de pas boire de l'alcool. Alors, mais je pense que même si tu sors boire un verre, pas forcément d'alcool ou dîner, et que tu reviens, ça perturbe ton sommeil. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à la maison, pas de repas trop copieux. Je pense que...
Juste un bon bros.
Un bon bros, tout à fait. Là, c'est ma passion en ce moment. Je me fais ça en semaine et franchement, ça me suffit parce que le soir, j'ai pas hyper faim et c'est hyper doudou, réconfortant. Enfin, je suis une adepte et évidemment que de pas trop manger le soir, surtout de pas manger de viande, parce que même mon mari, qui est pas du tout, à trop regarder ce qu'il mange, si c'est healthy ou pas... Il a bien compris que quand il mangeait trop le soir, il dormait hyper mal. Donc, je pense que ça, c'est important. Moi, je me fais bonne brosse, tisane, je me couche. Parce que tu sais, j'ai ce que... Je sais pas si c'est je sais pas si c'est un terme qui existe vraiment ou si c'est moi qui l'ai inventé un moment dans ma vie, mais j'ai mon train du sommeil. C'est-à-dire qu'à 22h30, j'ai les yeux qui commencent à se fermer et si je rate mon train, bah le prochain, il sera beaucoup plus tard. Donc j'essaye d'être au lit quand je sens que je m'endors, sinon je rate mon train. C'est comme quand t'as hyper faim et qu'à un moment, ça passe. Tu vois ce que
ouais,
je veux dire?
Ouais, ouais, ouais.
Bah là, c'est pareil, j'ai hyper envie de dormir. Si je vais pas me coucher à ce moment-là, bah je sais que le sommeil viendra moins bien.
Parce que t'es aussi entrepreneur, t'as pas ce faux mot de « il faut que je fasse plus ». Tu te remets jamais à travailler après avoir couché les enfants?
Bah tu vois, par exemple, hier soir, elle avait ma newsletter que ma graphiste m'a envoyée à minuit. Mais je me suis dit « merde, j'ai ma newsletter », donc je suis retournée faire ma news sur l'ordi. Et il se trouve que, bref, j'ai dû la faire le matin, mais souvent je me remets à travailler un peu, quand c'est le rush, mais j'évite.
Et travailler avant de dormir, ça t'empêche pas de dormir ?
Non, par contre j'évite scroller sur Instagram. Il y a un moment dans la soirée, je fais mon petit tour, tu vois, et je pose mon tel. Je lis avant de dormir. Je regarde pas d'écran de téléphone.
Donc en gros 22h t'es dans ton lit.
Non, je pense 23, le temps de me faire mon petite patrouille, wacha et compagnie.
Mais là t'as loupé ton train.
ouais, non mais c'est je sais pas exactement, mais il y a une tranche, tu vois. Donc je pense que 23, paf, je suis dans le lit.
Et t'essayes toujours de grappiller un petit peu, comme tu dis que t'avances un peu pour tes enfants. Est-ce que pour toi aussi t'essayes un peu d'avancer?
Ouais, j'essaye un peu d'avancer. Par contre, tu vois, ça me déprimerait d'aller me coucher à 21h30. Ma cousine, elle fait ça parce que, d'autre part, elle sort aussi beaucoup plus que moi la semaine, donc elle essaye de compenser. Donc parfois, elle se couche à 21h30. Mais moi, sachant que c'est le moment un peu de qualité avec mon mari où on est tranquille, on regarde un film, voilà. J'ai pas envie de...
Et ça a été vraiment toujours une ligne de conduite dans ta vie, de faire du sommeil une priorité? T'as jamais fait de sortie de route?
Évidemment, quand j'étais jeune, je faisais la teuf et tout, mais j'ai jamais été la fille qui finissait à 5 heures. Mon grand max, c'est 3 heures, je suis au bout de ma vie. Et d'ailleurs, gros complexe des teufeurs qui allaient jusqu'au matin, moi j'y arrivais jamais.
Et ça, c'était plutôt une tradition familiale, t'étais toujours couchée tôt?
Oh, je sais pas. Non, je pense pas. Mais en tout cas, c'était bien calé chez nous aussi, comme dans beaucoup de familles, je pense. Rituel du soir.
Et là, les rituels, ils sont quand même assez rapides. Si à 19h, vous dînez à 20h, ils sont au lit.
C'est vrai que le dîner, ils dînent vite, les enfants. Et puis, après, j'essaye là de mettre en place, mais on le fait pas tous les soirs, de lire avec eux. Donc, les grands, là, je leur lis Harry Potter, parce que figure-toi que je n'ai jamais lu Harry Potter. Donc, on a commencé, et je trouve ça génial, c'est vraiment un trop bon moment. Et je pense que je dois lire une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure avec eux, tu vois.
Ouais, c'est génial. Les Roald Dahl aussi, moi, on m'a beaucoup lu enfant, et là, j'ai lu l'Odyssée d'Hermès. C'était super bien écrit,
oui, c'est vrai.
Dans une collection où il y avait un chapitre, du coup, on pouvait faire un chapitre ou deux par soir, c'était super, là on lit la naissance du monde. C'est vrai que la lecture à voix haute, aussi tu te rends compte que tu développes beaucoup tes compétences d'élocution. Au début où tu relis, tu dis « suis-je intéressante ?»
Moi, tu sais, mettre le ton, c'est un vrai boulot, parce que tu sais, faut faire la voix d'Hagrid, après faut faire la voix de Dumbledore et tout.
Après, tu fais les bruitages.
J'essaie d'adapter, alors je fais pas les vraies voix, mais j'essaie, tu sais, qui différencie un peu, quoi. Et j'essaie de mettre le ton, et en plus de pas bafouiller, et c'est vrai qu'au début, tu prends les pieds dans le tapis, entre guillemets, ta langue, elle est pas habituée, et là, je vois bien que ça déroule beaucoup plus vite, que j'arrive mieux à lire l'histoire.
Ouais, carrément, ça développe aussi ton élocution, le partage aussi, parce que pour donner envie aux gens de t'écouter, enfin à tes enfants.
J'ai envie que mes enfants, ils soient dans Poudlard, tu vois. En m'écoutant, j'ai envie qu'ils vivent le truc.
C'est des trucs genre Alice au Pays des Merveilles ou Tom Sawyer. En fait, il y a plein de super romans comme ça à lire aux enfants.
Quoi. C'est sûr qu'il y a de quoi faire. Et je trouve ça hyper bien de... Parce que moi, j'ai ma liseuse, je lis des romans sur ma liseuse, tu sais, parce que je trouve ça quand même hyper pratique. Et là, j'ai le vrai livre entre les mains, tu sais, c'est un peu retour aux vraies choses, quoi. Genre, c'est vraiment un bon moment et je trouve ça chouette de leur montrer aussi que c'est bien de le lire avant de dormir. Ça ne va pas perturber ton sommeil.
Parce que là, vous habitez dans une maison en bois à Nantes. Toi, t'as grandi où?
J'ai grandi à Nantes.
Ok, après, donc t'es une vraie, nantaise. Ouais. Ok, donc là c'est un peu un retour aux sources.
Bah, j'avoue qu'on est un peu revenu aussi parce qu'on a eu des enfants.
Ouais.
Et que d'avoir les parents à côté, c'est pas de refus. Enfin, ne serait pas forcément, je veux pas dire en babysitter, d'ailleurs, ils les gardent très peu en dehors des vacances, mais qu'ils les voient grandir, quoi.
Mais comment tu décrirais la culture nantaise? C'est quand même, la famille est quand même une valeur.
Je sais pas. En vrai, je me sens pas du tout nantaise. C'est désolé pour les Nantais, hein. Mais je me sens pas trop nantaise. Mon rêve, c'est d'aller vivre en Espagne. Alors, si tu veux, c'est pas trop le même
mais
coin.
C'est vrai, ton nom est fait un peu espagnol.
Oui, mon grand-père est espagnol. J'ai des origines espagnoles. Cabanas, c'est espagnol.
Et qu'est-ce qui te plaît plus en Espagne qu'en France? Parce que là, tu serais très perturbée niveau sommeil parce qu'il commence à dîner à 22 heures.
Oui,
même,
oui,
je me suis toujours demandé pour les enfants, parce que si les enfants dînent ultra tard.
Il y a aussi ça, ma belle-sœur, la sœur de mon mari, est mariée avec un espagnol, un catalan, et ils ont des enfants à Barcelone qui sont franco-espagnols. On est très proche d'eux, donc on va tout le temps chez eux, à la Toussaint, et ils sont, on est là dans leur semaine, parce qu'ils n'ont pas de vacances. Donc on les voit, et t'inquiète que, alors je sais pas si c'est parce que ma belle-sœur est française, du coup elle adapte, mais en vrai, à 20h, ils sont au lit. La semaine, quand il y a école. Mais aussi
parce que les horaires sont les mêmes qu'en France, ils commencent plus tard, non?
Ils ont, tu sais, ils finissent à 15h, ils ont toujours du sport l'après-midi.
Mais ils commencent le matin à
8h30. Je crois que c'est ça, ouais, 8h30,
9h. OK. Donc c'est pas décalé.
Mais effectivement, c'est des coups faits tard et c'est décalé, mais en même temps tu as un mode de vie beaucoup plus lourd qui va avec, tu vois. C'est-à-dire que là, on passe nos vacances en Andalousie l'été. Les commerces sont fermés jusqu'à 16-17 heures parce qu'il fait trop chaud, du coup. Et en fait, tu vis aussi un peu en décalé comme ça, quoi. Ils font la sieste l'après-midi. Ils sont détente, quoi. Je pense que là, ce côté détente, ça me convient mieux. Et en fait, t'as pas faim avant, en tout cas. C'est vrai que à la base, c'est pour ça qu'ils dînent tard. Hein. C'est parce qu'il fait très chaud et que t'as pas faim avant...
Enfin, ils sont quand même beaucoup plus décalés les Italiens ou les Portugais, les Espagnols.
Ouais,
en termes de.
Je savais pas que les Italiens ils sont pas décalés.
Non,
ah,
non,
ouais,
non,
je
bah, pas comme
que
les Espagnols.
Les pays du sud,
je crois que c'est les Espagnols quand même. Bon, après, je suis pas non plus une experte des modes
après,
de vie, mais c'est quand même les Espagnols où tu peux pas dîner si toi. Enfin, les restaurants, c'est à partir de 22h.
Ouais, 21h, je pense.
Et
après,
là, t'as encore
dépend.
Un peu l'anglais qui arrive à 18h.
Ouais, c'est ça, à 18h, ils sont là, ils sont encore au déj, quoi. Mais bon, c'est marrant et je trouve ça cool, ça change. Tu vois, à Nantes, quand tu veux déj à 14h30, il n'y a rien. Tout est fermé.
Donc, tu te rêves un petit peu une petite cabane.
Ouais, en fait, j'ai envie d'habiter un peu comme, tu vois, quand tu grandis, enfin voilà, tu vieillis, t'as envie de calme, d'habiter à la campagne, bah ça, ce serait ma campagne à moi, quoi. Et que les enfants vivent autre chose, voient autre chose. Ils sont très sensibles à la culture espagnole parce que leurs cousins sont espagnols, forcément. Et d'habiter au bord de la mer. En fait, mon rêve ultime, c'est de... J'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps, d'avoir un endroit où je vois le soleil se lever le matin, où je peux voir le soleil se lever le matin ou se coucher le soir, tu vois. Avoir une vue.
Carrément. Et pour ton job d'entrepreneur, tu penses que tu peux
Moi,
le faire
ça
de
y
partout
carrément. Oui.
Donc, il n'y a rien qui te
bah,
qui
si, tente. Si,
ouais.
Pour l'instant, c'est
il
pas
est
possible
moins nomade.
Pour lui de bouger. Mais je ne perds pas espoir, ça viendra.
Donc, tu as grandi à Nantes. Est-ce qu'il y a des plantes... des ingrédients que justement tu nous as parlé du bone broth, soit thym, citron, soit gingembre, curcuma.
J'aime bien les deux, je t'avoue que j'arrive pas à choisir, j'aime bien varier.
Est-ce qu'il y a des plantes que tu as trouvées sur ton chemin, qui t'apaisent, que tu aimes retrouver justement dans ton rituel de bonne nuit? Est-ce qu'il y a des, tu parles d'infusion, est-ce qu'il y a des senteurs, des goûts, des plantes dont l'apparence te plaît et t'envoûte?
J'adore les plantes, les fleurs. Ma mère a un immense jardin avec plein de variétés. C'est drôle parce que en termes de goût, tu vois, j'aimais pas la cannelle pendant très longtemps. Et là, je redécouvre et j'adore. Je trouve ça hyper réconfortant et en même temps un peu tonique, tu vois, un peu pimenté comme moi. Je suis On me dit tout le temps, je suis moitié douce, moitié piquante, quoi. Donc, c'est un peu ça. Et puis, en termes d'odeur et de visuel, j'aime beaucoup la glycine. Mmh. Parce que pour moi, c'est le symbole du printemps qui arrive et de ça y est, on voit le bout du tunnel. Et ça dure une semaine, 10 jours, tu vois. Et de voir la glycine partout et ça sent aussi hyper fort.
Tu en as dans ton jardin ?
Non, mais j'en avais sur la façade de ma maison quand j'étais petite.
Mmh,
et tout de suite, c'est une douceur des journées qui rallongent. Et ouais, c'est un gros symbole pour moi. C'est très. C'est un effet très Madeleine de Proust.
Mais ça fait partie des fleurs dont mes invités parlent le plus, c'est la glycine. Ouais, il y a certaines, parce que aussi c'est très lié à une odeur, et je crois que c'est comme le figuier. Ça fait partie aussi des plantes souvent qui rappellent beaucoup l'enfance.
Dans les jardins,
dans l'ouest de la France, c'est vrai que tu as beaucoup la glycine, ouais. Je pense.
Mais c'est très, très court dans l'année, la période de la glycine.
Je pense que c'est quand même un peu plus que quelques semaines. Parce que moi aussi, j'ai des souvenirs de glycine pergola comme
c'est,
ça.
C'est long. Je pense que c'est un mois en tout. Ça doit être un mois. Mais le moment où elle est vraiment full fleur, explosion partout, je pense que c'est 15 jours. Quoi.
Et là, ta mère a un jardin avec beaucoup de fleurs. Il est où ? C'est quel terroir ?
c'est au Cellier, c'est à côté de Nantes, à 20 minutes de Nantes. Et en fait, c'était la maison de mes grands-parents. Et t'as une vue vraiment panoramique sur la Loire. Je pense que c'est aussi ça, mon côté. Et c'est magique parce que tu vois les saisons changer.
Ouais.
Les paysages sont toujours différents. Et elle me ramène toujours des fleurs dès que dès que c'est la saison, elle me ramène toujours des bouquets, mais incroyables, que je ne retrouverai jamais chez un fleuriste. Et j'adore parce que c'est sauvage et c'est des fleurs très différentes.
C'est des fleurs sauvages, elle les cultive pas ?
Il y en a des sauvages, mais non, elle en fait rarement pousser. Quoi. Elle est plus dans les fruits et légumes,
okay.
Potager, tout ça.
Toi aussi, tu as un potager ?
On n'arrive pas. Je t'avoue que la main verte dans la famille, c'est mon mari. Et moi, je n'ai pas trop le temps. Je sais que je m'y mettrais genre à la retraite, tu vois. C'est un truc qui me donne envie, mais là, pas le temps, pas l'envie.
Mais dans le jardin de ta mère, du coup, tu nourris tes enfants avec les légumes du jardin ?
Bah, quand ils y vont, ces petits pois du jardin, salade du jardin. Assez un truc qui est hyper Madeleine de Proust pour moi, c'est les fraises des bois. C'est très très rare et je me souviens quand je travaillais à côté de la grande épicerie à Paris, là je voyais les fraises des bois, 15 euros la mini barquette de 100 grammes, tu vois, je me disais mais il y en a dans le jardin de ma grand-mère. Et quand on était petit, on allait avec notre petit panier chercher les fraises des bois, c'est magique quoi, et les enfants vivent encore ça aujourd'hui.
Il n'y a rien de mieux que les manger en plus quand tu les cueilles là en terre.
Mais c'est un goût, ça n'a rien à voir avec les fraises lambda, tu vois, c'est vraiment un goût hyper spécial.
Ouais, tous les petits fruits, les framboises aussi, ça n'a pas du tout le même goût. C'est vrai, on a eu cette chance de grandir avec des jardins de grand-mère avec plein de petits arbustes. Non, t'as raison. Quand on sera des grand-mères, il faut absolument qu'on ait des arbustes à fruits.
Moi, je me dis quand je serai une grand-mère, évidemment, que coucher de soleil et puis arbustes.
Fraises des bois.
Ouais.
C'est un super goal, ça.
Life goal. Ça va, c'est accessible quand même, je pense.
Ouais, non mais c'est tout un univers sensoriel de cueillir et goûter.
Ouais, c'est hyper satisfaisant, hyper... Et non, le mieux, c'est de cultiver, faire grandir. Tu vois, ma mère, elle fait ses boutures l'hiver, elle les plante, elle les voit pousser, elle fait ça avec les enfants aussi. Et ensuite, elle les cueille, elle les mange. T'imagines comme c'est gratifiant et satisfaisant de te dire, j'ai fait ça, je me nourris de... travail.
Bah c'est bon, t'as un maître dans la personne de ta mère.
Ah mais c'est mon idole. Mais
elle t'a inspiré aussi sur la maternité.
Ouais. Là, cette insouciance que je cultive aussi beaucoup aujourd'hui, dont j'ai hérité, c'est que maintenant que je m'en rends compte en fait. Quand t'es jeune, tu vois pas trop ce que t'hérites de tes parents, et aujourd'hui, je me connais beaucoup mieux et je vois ce que j'ai d'elle. Alors ça, la contrepartie d'être un peu tête en l'air, j'oublie mes clés partout, je raye la voiture et tout, mais je préfère voir le côté positif de cette ce trait de personnalité.
Écoute, j'ai trouvé le titre de cet épisode, Cultiver l'insouciance et les petits fruits.
Voilà, les petits fruits des bois.
En plus, je fais une figure de style géniale.
Magnifique.
Bah, merci beaucoup, Mathilde.
Merci,
on te
Claire.
Souhaite des tas de cueillettes avec des petites mains et des grandes mains.
Ah, j'espère.
À très bientôt.
Bisous.
Bisous.
Évidemment.
J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de rire, de bisous et de bonnes brosses. Mon podcast Coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre Mes routines du matin. Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par email à claire@ateliernubio.fr. Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités. J'ai hâte de vous lire.